Bonjour Bernadette, ravie de vous avoir avec nous une nouvelle fois pour cette belle émission Martyr d'aujourd'hui.
Bonjour Olivier, bonjour chers amis de Radio Maria. Alors c'est une joie bien sûr pour moi aussi de vous retrouver alors pour ce second volet sur Sœur Maria Laura Mainetti, martyr de la foi et de la charité, et que le pape François a proclamé bienheureuse le 6 juin 2021. Alors, pour vous qui nous rejoignez aujourd'hui, peut-être, vous pouvez bien sûr retrouver la première émission en podcast. Je rappellerai simplement que Sœur Maria Laura était une religieuse italienne de la Congrégation des Filles de la Croix, une congrégation qui a été fondée en France à la fin du XVIIIe siècle pour restaurer la lumière et la consolation divine, là où la Révolution française avait engendré toutes sortes de pauvreté et de violence. Alors, ses fondateurs étaient convaincus que l'apostolat auprès des pauvres passait par l'éducation, et pour cela, ils avaient créé un bon nombre d'écoles un peu partout en France, et puis la congrégation a essaimé, notamment en Italie. Alors, Sœur Maria Laura, en entrant dans cette communauté, s'est donc mise à l'école de ses fondateurs et a consacré sa vie en tant qu'éducatrice et enseignante aux enfants, aux jeunes qu'elle aimait beaucoup. Sa vie s'est donc déroulée dans un quotidien ordinaire, mais elle avait su transformer cette routine en se donnant totalement avec joie pour répondre à ceux qui en avaient besoin et, selon ses propres mots, en se laissant évangéliser par eux. Alors, une des sœurs qui la connaissait à cette époque-là disait d'elle, sa façon de se donner était simplement en cohérence avec sa vie de contemplation, et elle faisait tout cela dans le silence, dans la simplicité et la constance. Ce qui frappait en elle, c'était sa capacité de transformer l'ordinaire, la quotidienneté, avec son perpétuel sourire, une grande ouverture de cœur, une bienveillance à tout prix, un infatigable don de soi. Fin de citation. Alors voilà le secret de sa vie, transmettre l'amour qu'elle avait reçu du Christ, le transmettre aux autres. Et comme elle le disait, si Jésus m'aime aussi fort, je dois transmettre cet amour aux autres. Bonté, douceur, accueil, service. Et sur la porte de la chapelle d'adoration où elle passait des heures, elle avait même inscrit sur une petite pancarte « Entre pour prier, sors pour aimer ». Une magnifique devise. Et cette devise, on peut dire, elle l'a suivie jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de sa vie sur terre. Alors, ce qui nous amène au soir du 6 juin 2000. Il est presque 22 heures, une jeune fille en larmes téléphone aux religieuses et demande à ce que Sœur Maria Laura vienne la voir. Elle est effondrée. Suite à un viol, elle s'est retrouvée enceinte et ses parents l'ont abandonnée. Elle a besoin d'aide. C'est un appel au secours et pour Sœur Maria Laura, il n'y a pas un instant à perdre. Elle part immédiatement vers le lieu du rendez-vous, même s'il fait nuit, même si cela paraît imprudent d'y aller seule, mais elle veut préserver l'intimité de cette jeune fille. Et même si le lieu du rendez-vous se trouve dans un coin isolé, près d'un parc mal famé. Il y a urgence. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va tomber dans un piège. La jeune fille qui l'a appelée est bientôt rejointe par deux autres amis, et toutes les trois s'acharnent sur elle, d'abord à coups de pierre, puis d'insultes, puis à coups de couteau. Sœur Maria Laura, les voyant folles de rage, et craignant aussi pour sa vie, bien sûr, les supplie d'arrêter, essaie de faire appel aux bons sentiments qui pourraient leur rester, mais rien n'y fait. Les trois continuent à déverser leur hargne, leur haine, à l'insulter. Elle l'oblige à se mettre à genoux devant elle et la poignarde, chacune à son tour, de 6 coups de couteau. Elles sont trois. 3 × 6, c'est le nombre de la bête dans l'Apocalypse. C'est tout ceci pour satisfaire un rituel satanique. En réalité, elles seront déçues parce que, au moment du procès, elles verront qu'elles avaient frappé 19 coups. Bon, je ferme la parenthèse. Pendant qu'elle la tue, Sœur Maria Laura trouvent encore la force de demander au Seigneur de leur pardonner. Formidable. Et elles, une fois qu'elles ont accompli leur sale besogne, elles abandonnent les lieux, elles vont laver leurs couteaux et elles s'en vont s'amuser au Luna Park du coin, comme si de rien n'était. Sœur Maria Laura reste là, mourante, seule dans la rue, baigne dans son sang, et ce n'est que le lendemain qu'une passante va découvrir son corps torturé. 3 jours après ont lieu les funérailles dans la petite église de Chiavenna, bondée, choquée, bouleversée. Une couronne de prêtres qu'on célèbre la messe, qui est présidée par l'évêque de Côme. Et 20 jours plus tard, les 3 filles sont arrêtées. S'ensuivent le procès, un recours en appel et la condamnation définitive. Une peine de prison de plusieurs années, suivie d'un temps de rééducation. Alors évidemment, cet assassinat a suscité chez les habitants de Chiavenna une question. Comment ce crime horrible a-t-il pu se produire chez eux? Dans cette petite ville si tranquille, presque un paradis, comme le disait monsieur le curé. Comment 3 filles, âgées à peine de 16-17 ans, ont-elles pu concevoir et exécuter un plan aussi horrible, d'autant plus qu'il avait été prémédité? Alors, sans leur ôter la responsabilité, parce que ce sont bien elles qui ont tué, une vérité a émergé au cours du procès. Une vérité que nous aussi, nous devons prendre au sérieux parce que ces 3 jeunes filles, Ambra, Veronica et Milena, ressemblent à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui trimballent jour après jour leur mal de vivre parce qu'ils n'ont pas trouvé de sens à leur vie. Au cours du procès, on a entendu des phrases du style « Je l'ai tué pour montrer que j'existe, pour réveiller et scandaliser la ville de Chiavenna. » Or, comme ces filles n'ont rien trouvé d'exaltant dans le paysage désolant qu'offre notre société, eh bien, elles se sont mises à chercher ailleurs des émotions fortes pour rompre la monotonie de leur vie ennuyeuse. Et elles se sont laissées fasciner par toutes sortes de transgressions. Elles se sont intéressées à des pratiques occultes et puis elles sont tombées finalement dans le satanisme. Tout cela, c'est vrai, nous questionne nous aussi. Et comme l'a dit alors le curé de Chiavenna, Don Ambrogio Balatti, nous pouvons redire avec lui quel type de société sommes-nous en train de construire? Quelles valeurs transmettons-nous aux jeunes générations? Et c'est là que réside toute la force, toute la beauté de la réponse et du témoignage de Sœur Maria Laura. Pour ces jeunes, je la cite, les plus pauvres de la société, parce que souvent désorientés, déracinés, plagiés, étouffant un cri de vie inexprimé, c'est fort, pour ces jeunes donc, elle donne sa vie chaque jour et jusqu'au bout. Et humblement, elle reconnaît que seule, elle ne peut rien. Et elle demande l'aide du Christ, elle implore l'aide de Jésus. Je sais l'urgence de les accompagner et de demander l'aide à Jésus. Ils n'ont aucun point de repère. Jésus, fais quelque chose. Fais-nous comprendre comment être ta main, ton geste, ton prolongement. Pour ces jeunes, elle donne sa vie pour transmettre l'amour reçu et en plus, pendant qu'elles sont en train de la tuer, elle implore pour elle le pardon de Dieu. Alors comment ne pas être retourné, secoué, bouleversé, vous choisissez l'adjectif que vous voulez, c'est fort. Alors je suis sûre que vous voudriez savoir si ce geste d'amour a changé la vie de ces filles. Je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse, mais ce que je sais, c'est qu'après avoir purgé leur peine de prison, elles ont été accompagnées par des éducateurs, des prêtres, dans des communautés. Alors Milena, par exemple, a été confiée par le père Antonio Mazzi à sa communauté pour toxicomanes. Véronica a été hébergée dans une communauté catholique romaine et puis est devenue une douce et responsable jeune femme qui s'occupait des petits. Elles ont ensuite fait des études, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, elles ont des enfants. Elles ont changé de lieu de vie et de nom pour prendre un nouveau départ. Et les sœurs de la congrégation des Filles de la Croix ont même reçu une lettre de Milena où elle écrivait qu'elle ne pouvait avoir pour sœur Maria Laura qu'un sentiment d'amour et que sœur Maria Laura avait défait le mal. Et elle avait ajouté un peu plus loin « Maintenant, je trouve en elle le réconfort et la grâce de tout supporter. Je prie sans cesse et je suis sûre qu'elle nous aidera à devenir une personne meilleure. » À l'endroit du martyr se dresse aujourd'hui une croix où sont inscrits ces mots « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et sur la tombe de sœur Maria Laura, on retrouve presque les mêmes mots. Le grain de blé tombé en terre porte beaucoup de fruits. Ce changement de vie dans les cœurs de ces trois filles peut déjà être un petit fruit qui est en train de mûrir. De toute façon, tous ces fruits du martyr, sur terre, nous n'en voyons qu'une partie. Mais je suis sûre, ils mûrissent déjà un peu partout, d'après tous les témoignages recueillis. Alors, on sait par exemple que dans l'attitude qu'ont eu les frères de sœur Maria Laura dès l'assassinat de leur sœur, eh bien, ils n'ont eu aucun ressentiment à l'égard de ces filles. Du moment que leur sœur avait pardonné, alors évidemment, eux aussi pardonnés, ils n'espéraient qu'une seule chose, qu'elle se repente et trouve un chemin de guérison intérieure. Et à Chiavenna, ce martyr a réveillé vraiment la ferveur populaire. La tombe et le lieu du martyr sont devenus des lieux de prière, presque de pèlerinage, de recueillement, de plus en plus fréquentés. Et ce martyr a aussi donné un nouveau regain de charité, non seulement aux chrétiens de la région, mais à d'autres, un peu partout en Italie, des fondations diverses, des écoles, des centres sociaux caritatifs et toutes sortes de nouveaux projets qui portent le nom de sœur Maria Laura ont vu le jour après sa mort pour soutenir, protéger ou aider la vie, les jeunes, les familles, les malades. Et ces projets sont nés d'initiatives de bénévoles généreux, spontanément, extérieurs à la communauté des Filles de la Croix. Cet élan a même dépassé les frontières de l'Italie, puisqu'il est allé jusqu'en Côte d'Ivoire, où la communauté des Filles de la Croix est présente auprès des pauvres, en Roumanie et même en Argentine. Des prix lui ont été décernés, pour rendre hommage bien sûr à la sœur et la remercier. Des articles de presse ont paru pour la faire connaître et notamment celui d'un éminent psychiatre italien, le professeur Vittorino Andreoli, qui, bien que se disant athée, mais respectueux de ceux qui ont la foi, a vraiment été émerveillé, touché par le pardon, dit-il, surhumain, que sœur Maria Laura a donné au moment même où on l'a tuée. Et il ose dire « Je ferai de cette sœur, de cette femme, un exemple humain pour les jeunes. Elle est la seule qui a les cartes en main pour parler aux jeunes d'aujourd'hui, aux jeunes en crise. Ils ont besoin d'exemples proches. Il est difficile de faire la description de ce qui attire les jeunes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être vrai. Or, sœur Maria Laura était une femme vraie. » Premier beau témoignage. Et à la suite d'un autre article, un autre médecin a découvert sœur Maria Laura et a demandé son intercession pour la santé de sa sœur qui souffrait depuis une bonne dizaine d'années de polyarthrite rhumatoïde chronique. Plus aucun traitement médical, y compris la cortisone, n'avait d'effet sur sa maladie. la santé de cette dame s'était bien dégradée, elle était grabataire, pour ainsi dire, plus elle avait des troubles psychiques, était agressive, bref, elle allait vraiment très mal. Donc, ce médecin avait lu un article et écouté ce qu'elle a écrit aux sœurs. « J'ai entendu parler par les journaux de la sainte mort de sœur Maria Laura. Je me suis alors tournée vers cette nouvelle martyre de la charité. Et, sans soins spécifiques, sauf peut-être quelquefois une aspirine, ma sœur parvient maintenant à vivre une vie presque normale. J'attribue le mérite de ce résultat absolument exceptionnel à l'intercession de votre consœur. » Voilà de beaux fruits qui sont en train de mûrir et je vous ai dit, on ne connaît pas tout sur Terre. Alors pour terminer la présentation de cette belle figure de sœur Maria Laura, je vais vous lire une page tirée de ses notes. Vous allez voir, un vrai champ d'action de grâce où elle contemple, émerveillée, la présence de Dieu dans sa vie. Vous allez voir, c'est magnifique. Et c'est une prière que nous pouvons faire nôtre parce qu'elle nous rejoint vraiment tous. Voilà, je prends la lecture. Je sens ta main sur moi. Même dans l'obscurité de la nuit et du péché, tu me vois, tu m'appelles, tu m'invites à te parler, à te raconter ce qui m'arrive, les événements joyeux et tristes. Tu me consoles, me pardonnes, tu me comprends, tu m'encourages. Fortifie ma volonté est faible. Apprends-moi à faire ta volonté. Jésus, toi qui as aimé la volonté du Père quand il te demandait le sacrifice de ta vie pour moi, apprends-moi aussi à me donner avec générosité, à te dire mon oui, même si je ne comprends pas, même si mon cœur pleure. Apprends-moi à être patiente avec moi-même et avec les autres. Si pour le moment je ne comprends rien de toi, pourtant je te cherche, je t'aime. Mon cœur a soif et faim de joie profonde. Le péché, le monde, l'argent, le succès, le pouvoir, la mode procurent des joies de rien du tout, qui finissent, qui te laissent les mains vides et dans l'amertume. Tu te demandes, mais quel sens a la vie? Où était Dieu dans ces événements de mort? Dieu ne veut pas la mort. Il ne l'a pas voulu pour Jésus. S'il l'a ressuscité, il vaincra aussi toutes nos morts. Son cœur de père vaincra la mort pour toujours, ce dernier ennemi de l'homme. Ton regard se pose sur moi. Regard très tendre de père, de frère, d'ami, d'époux. Moi aussi je te regarde, je te cherche, je t'aime. Je fixe mon regard sur toi. Mais c'est de la foi, c'est la confiance en ta parole, c'est l'attente du salut, c'est la joie de ta présence. Attire-moi à toi, Père, enseigne-moi le silence d'adoration, l'obéissance amoureuse. Apprends-moi à me faire accueillir par toi, jour après jour. Ma vie t'appartient, Jésus. Mes pensées, mes désirs, mes angoisses, mes attentes t'appartiennent. Mes élans sont pour toi, mes souvenirs et mes rêves sont pour toi. Toi l'époux, toi l'ami, toi la beauté, toi l'harmonie du créé, toi la lumière, le chant, toi la paix profonde à laquelle mon cœur aspire, toi la paix des familles. Que ta paix vienne en moi, en nous, dans le monde. Tu es le chemin, tu es l'amour. Tu es l'amour parce que tu donnes la vie chaque jour. Apprends-nous l'engagement dans le quotidien, dans la monotonie des jours. Donne-nous de nous engager pour un avenir meilleur, de collaborer avec toi pour un avenir meilleur, toi qui es le Père de tous les hommes. Je ne t'ai jamais vu, mais il y a des signes de toi dans le monde. Ta tendresse me rejoint. Je ne te comprends pas toujours, mais je sais que tu m'aimes.
Amen. Amen. T'as envie de dire... Aussi, de vous poser une question, Bernadette. Oui. Lèveriez-vous un coin du voile? Quelle figure allez-vous nous exposer le mois prochain?
Ah, oh, mais vous en demandez beaucoup. Alors, la prochaine fois, ce sera Don Giovanni Fornasini. On reste en Italie.
On reste en Italie, je l'entends.
Alors, c'est le saint, je l'annoncerai quand même à l'antenne, c'est le saint que j'ai tiré le jour où on avait fait le tirage des saints au début
Maria
novembre
France,
à Radio Maria.
Oui.
Vous voyez, un martyr pour la chronique des martyrs. Je suis obligée de lui rendre hommage.
Eh bien, qu'il continue à intercéder pour nous. Merci Bernadette. Nous nous retrouvons le mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission Martyr d'aujourd'hui avec Bernadette. Il y était question de Sœur Maria Laura Mainetti. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.